De nouveau, bonjour à tous.
Depuis hier soir, et puis je pense qu'il y a des visages, nouveaux qui complètent ce matin, ce qui me permet de rappeler ma reconnaissance pour votre accueil, vraiment, ma reconnaissance à Dieu, au Seigneur, pour son œuvre, pour tout ce qu'on a pu voir et entendre ces jours-ci. Et puis, votre amour pour la Bulgarie, votre amour pour tout ce qui se passe là-bas, votre soutien dans des situations qui ne sont pas toujours faciles là-bas. Et vraiment aussi le privilège de pouvoir ensemble ouvrir la parole du Seigneur. Et j'espère qu'on est bien installés, parce qu'on va voyager, on va parler d'une mission à court terme, une des missions qui a été peut-être une des missions les plus périlleuses et les plus désespérées dans l'histoire du peuple de Dieu, du peuple juif, le livre d'Esther. Et je vous propose de lire à partir du chapitre 5. Je vais lire une partie de ce livre et puis ensuite dire quelques mots d'introduction et parler donc de cette mission d'Esther pour intercéder pour son peuple, le peuple juif, le peuple de Dieu qui... en exil dans l'immense empire perse, se retrouve dans une situation désespérée. Essayons un petit peu, en lisant ce texte, d'imaginer ce qui se passe. Esther chapitre 5. Il est écrit que le troisième jour... Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit: « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit: « Allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais. » Esther répondit: « Voici ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence, de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent: « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther ce second jour. Le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendrais ?» La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. » Voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se prononce d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. On peut aussi traduire « Aman s'effondra en présence du roi et de la reine ». Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais arrêter la lecture ici. On pourrait continuer, mais peut-être que c'est l'essentiel en ce qui nous concerne. Une mission désespéré, je crois qu'on peut difficilement concevoir à quel point la situation dans laquelle se trouvait Mardoché, Esther, qui était devenue reine de Perse, mais qui était une jeune fille juive en exil, et tout le peuple juif dans l'immense empire perse. Les juifs sont en exil, au milieu d'un empire entièrement païen. Ils sont dans toute la faiblesse des exilés, ils n'ont aucun pouvoir. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a une succession d'événements qui se mettent en place pour essayer d'accomplir un plan démoniaque, un plan diabolique, c'est la destruction du peuple de Dieu. Et la question, c'est la survie du peuple de Dieu alors que les ennemis du peuple de Dieu veulent le détruire. Et là, vous avez deux nœuds, on pourrait dire, de pouvoir terrible qui s'allient, qui opèrent une alliance de méchanceté, une mésalliance pour détruire le peuple de Dieu. L'un de ces pouvoirs, c'est cet homme, ce méchant-là, ce Aman ou Aman, d'après la langue originelle, ce serait plutôt Aman qu'on dirait. Cet homme, ce méchant-là, il est décrit comme étant Agagite. Si on fait un petit peu des recherches, il était Amalécite, le peuple d'Amalek. Amalek, qu'est-ce que c'est ? C'est une peuplade semi-nomade des plaines semi-désertiques de la péninsule du Sinaï, de l'Arabie Saoudite. Bon, un peuple. Mais quand on observe l'histoire d'Israël et on voit les Amalécites qui, à un moment, à la sortie d'Égypte, pour la première fois, attaquent le peuple de Dieu, et vous vous souvenez de cette bataille où Moïse devait maintenir ses mains levées en l'air pour qu'il y ait la victoire contre Amalek. Et puis après, un petit commentaire où il est dit que où Dieu dit que Amalek a levé le bras, où il a levé la main contre le trône de l'Éternel, et donc il y aura guerre entre Amalek et l'Éternel pour l'éternité. Ce qui montre que derrière un événement humain, une peuplade nomade qui attaque le peuple de Dieu, il y a beaucoup plus, il y a une guerre qui est devant le trône de l'Éternel pour l'éternité. Et Amalek, c'est la puissance de Satan. C'est l'ennemi de Dieu, c'est Lucifer, c'est cet ange qui a voulu prendre la place de Dieu, qui s'est élevé dans un orgueil inimaginable pour renverser la puissance de Dieu et entraîner toute l'humanité dans la révolte et dans la destruction. Donc, Satan et puis Amalek, les Amalécites, et cet homme qui est là, ça représente ce pouvoir satanique, c'est-à-dire cette haine forcenée mortelle contre Dieu et contre son peuple. Et c'est une puissance spirituelle, d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a cet immense empire, cet empire de 127 provinces, l'empire perse. Un empire qui était un empire totalitaire et qui avait la volonté de gouverner le monde entier et qui possédait les lois des Mèdes et des Perses, ces fameuses lois qui sont décrites comme étant irrévocables. La loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Et ça, c'est le pouvoir de l'homme, le pouvoir de la civilisation humaine, le pouvoir des lois humaines et l'homme qui voudrait élever lui-même, élever son empire, élever ses lois contre Dieu. C'est-à-dire, c'est le pouvoir antichrist. Et vous avez cette mésalliance entre Aman, qui représente la puissance même de Satan, et puis cet empire qui a des lois irrévocables. Et voilà une loi qui est proposée pour qu'à telle date, tel jour, tel mois, tous les Juifs soient massacrés, détruits, égorgés, et que tous leurs biens soient livrés au pillage. Et cette loi est irrévocable. Vous avez une loi irrévocable et vous avez un ennemi absolu, un ennemi forcené, un ennemi qui n'a aucune compassion, qui n'a aucun cœur. Et c'est une situation sans espoir. Et ça nous permet de nous rappeler que la situation de l'homme sans Dieu est réellement désespérée, elle est tragique, elle est épouvantable. Même si le monde dans lequel nous vivons parfois paraît sympathique, parfois paraît humain, parfois paraît accueillant, parfois paraît agréable, la condition humaine sans Dieu est une situation d'absurde et de désespoir. Et la rédemption en Jésus-Christ est un miracle. La rédemption en Jésus-Christ est un miracle, c'est une intervention de Dieu. Et revenons à l'histoire d'Esther. Nous avons cette opposition qui a été déclenchée contre les Juifs parce que cet homme Mardoché refusait de se prosterner devant Aman, qui est une figure de l'homme satanique, de la bête. Il refuse de se prosterner. Il enfreint le protocole, il refuse de se prosterner. Et ça, c'est pas une insoumission devant l'autorité. C'est il refuse de livrer son âme à Satan comme les autres. Il refuse de se prosterner. Et cet incident provoque d'abord le désir que cet homme Mardoché doit être tué. Et pas seulement cet homme, tout son peuple, parce que son peuple, il est différent des autres peuples. Il adore pas les dieux des autres peuples, les dieux des autres nations. Il a son Dieu à lui, il a sa foi à lui, il a ses lois qui sont à lui. Il est différent de tous les autres peuples, donc il doit être détruit. Et puis vous connaissez l'histoire d'Esther. Vous savez qu'Esther était donc cette jeune fille qui a été tout à coup choisie, littéralement du jour au lendemain, pour être reine, pour être impératrice, hein, aux côtés de l'empereur. Et Esther qui ne révèle pas son origine, son peuple, sa nation, qui se retrouve dans cette position et le jour où il y a l'édit terrible qui commande la destruction des Juifs, elle doit rentrer en présence du roi pour intercéder, pour demander que le roi intervienne, que le roi fasse quelque chose pour que les Juifs soient sauvés. Et là, Mardoché, parce qu'Esther hésite, elle risque sa vie. non seulement elle risque sa vie, mais il y a très très peu de chances que sa demande puisse aboutir. Mardoché dit, je sais que le salut va venir de toute façon de quelque part pour les Juifs, mais si tu te tais, si tu fais rien, si tu prends pas position, toi et la maison de ton père, vous périrez. Mais le salut viendra pour les Juifs, et c'est pour ce temps-là, c'est pour ce moment-là que tu as été choisie pour être princesse, pour être reine, pour être là dans le palais. C'est pour intercéder en faveur de ton peuple. Et voilà le jour où, après quelques jours de jeûne et de prière, Esther rentre dans la présence de l'empereur et il est dit qu'elle trouva grâce à ses yeux. Et alors qu'il aurait pu la tuer très facilement, alors qu'Esther n'avait pas le droit de rentrer dans la présence de l'empereur, ainsi elle n'avait pas été appelée depuis 30 jours, elle aussi elle enfreint le protocole, alors qu'on voit qu'on avait un empereur instable, versatile, ambitieux, orgueilleux, et qu'il y avait de fortes chances qu'Esther soit tout simplement tuée sur place, elle trouve grâce. Et voilà le moment où, donc ensuite, selon le protocole, elle invite le roi à un festin, et voilà le moment où elle va, ou en tout cas on s'attend qu'elle prenne position et qu'elle supplie le roi en faveur de son peuple et contre cet homme qui est là, cet ennemi qui doit être confronté, Aman. Le problème, c'est que le roi Assuérus aime énormément, honore et admire cet homme, Aman, c'est-à-dire qu'inconsciemment, il adore Satan. Et là, on a quelque chose de très étonnant, quelque chose que, avec ce que le récit nous donne et notre logique humaine, on n'arrive pas à expliquer. Au moment où voilà le festin du vin, où voilà Aman, voilà l'empereur et la reine Esther, ils sont tous les trois, et le moment où l'empereur qui a été touché, le roi a été touché, il demande à la reine, quelle est ta requête, quelle est ta demande, et avec un cœur ouvert, il dit, même si ce serait la moitié du royaume, ça te sera accordé. La reine Esther ne donne pas de réponse. Elle dit, s'il plaît au roi, venez demain au festin que je préparerai avec Aman pour le roi, et demain je donnerai ma réponse au roi. C'est-à-dire que la reine Esther délaye d'une journée, elle délaye de 24 heures sa réponse. Et en lisant le récit, on n'a aucune explication qui nous permette de comprendre pourquoi est-ce que la reine Esther agit ainsi. Il ne nous est pas dit que Dieu lui a parlé. Et là, j'en profite pour ajouter quelque chose. Le livre d'Esther est un livre unique dans la parole de Dieu parce que Dieu n'est jamais mentionné dans le livre. C'est comme si Dieu était absent. Est-ce que c'est parce qu'on est tellement loin d'Israël, on est tellement loin de Jérusalem, mais le nom de Dieu n'est jamais mentionné. C'est comme si Dieu était absent. Et là, la reine Esther prend une décision qui semble ne correspondre à rien, une décision qui semble aussi à vue humaine non seulement étonnante, mais en plus extrêmement risquée. Le roi aurait pu se vexer. Le roi aurait pu rentrer dans une grande colère, parce que quand un homme qui a un tel pouvoir pose une question, il faut répondre. Le roi pouvait aussi être mal influencé et changer ses dispositions de cœur. Voilà un moment où l'empereur dit à la reine Esther, quelle est ta demande, quelle est ta requête, même si c'était la moitié du royaume, elle te sera accordée. C'était le moment parfait. Mais Esther ne répond pas. Et elle dit, demain, dans 24 heures, je donnerai ma réponse au roi. En laissant le roi sur sa curiosité, en laissant le roi sur sa faim, en laissant le roi dans le doute. Et non seulement le roi, mais Aman aussi, et nous qui lisons ce récit. Pourquoi faire ça? Pourquoi, quand on a la possibilité d'agir, est-ce qu'on va pas agir? On va attendre et délayer l'action. Alors que Esther était soumise à une pression, à une tension qu'on peut même pas imaginer. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a jamais été dans une situation de stress, de tension, de détresse comme ce que vivait la reine Esther. Déjà, elle risquait sa vie. Et ensuite, elle risquait la vie de milliers, de millions de personnes, de tout son peuple, de tous les juifs, qui, surtout l'Empire perse, qui incluait le territoire de Palestine, d'Israël. Quelque chose d'épouvantable. Elle ne donne pas la réponse au roi, elle délaye de 24 heures. Et il n'y a aucune explication qui est donnée. Et la seule chose qu'on est obligé quand même d'imaginer, c'est que Dieu lui a parlé. On doit imaginer que Dieu lui a parlé, mais on l'imagine parce que c'est même pas dit. C'est même pas dit que Dieu lui a parlé, mais il n'y a pas d'autre explication possible. C'était pas un caprice de sa part, c'était pas du tout une décision logique. Et la seule chose qu'on doit conclure, c'est Dieu lui a dit « Ne réponds pas au roi, attends, demain tu répondras au roi. » C'est-à-dire, c'est comme si Dieu disait « Ce n'est pas le moment que tu agisses. Les choses ne sont pas encore prêtes, les choses ne sont pas encore parvenues à leur maturité, les choses ne sont pas encore parvenues à leur accomplissement, il faut encore que j'agisse. Donne-moi une journée, une nuit pour agir. » Et c'est alors que là tu pourras apporter ta demande. Et donc il y a ces 24 heures, les 24 heures du délai d'Esther qui sont fatidiques. Et l'action qui continue. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 24 heures? Est-ce que vous pensez que les choses sont allées vers le mieux? Non, les choses ont encore empiré. Aman sort de la salle du festin et voit la Mardoché qui est là, assis sur le sac et la cendre, et il refuse de se prosterner de nouveau. Voilà cet homme qui refuse de plier devant Aman. Il dit qu'il ne se bouge même pas. Et la colère, cette fureur démoniaque dans le cœur de cet homme impie, il se dit, oui, il y a un jour où tous les Juifs vont être tués, là, dans quelques semaines, dans quelques mois, où tous les Juifs vont être détruits, mais je ne peux pas attendre. Et quand il est devant sa femme et qu'il est devant ses grands dans son palais et qu'il vante sa gloire et sa puissance et qu'il est invité au plus beau festin et qu'il a accès à plus de richesses que tout le monde, il dit « Mais pourtant, je ne peux pas vivre tant que cet homme est encore vivant. Je veux qu'il disparaisse. » Et sa femme propose, eh bien, élève une potence et demande demain matin au roi qu'il soit pendu. Et là on atteint le sommet des ténèbres, on atteint le sommet du drame. C'est-à-dire, c'est une situation où l'ennemi de Dieu, c'est comme si rien ne peut l'arrêter, il a tout pouvoir. L'ennemi de Dieu a tout pouvoir, et c'est comme si l'ennemi de Dieu a le pouvoir sur la vie et le pouvoir sur la mort, il a tout pouvoir, tout ce qu'il demande lui est accordé. La question qui est derrière ce livre, c'est quelle prière reçoit vraiment une réponse? C'est à quelle prière que les circonstances de la vie répondent? Est-ce que c'est les prières des méchants? Est-ce que c'est les prières des impies, de ceux qui veulent dans ce monde la destruction du peuple de Dieu? Ou est-ce que c'est la prière des enfants de Dieu? Et jusqu'à présent, on a l'impression que Aman, il a un pouvoir absolu. Personne ne lui résiste. Tout ce qu'il veut obtenir lui est accordé. Et c'est souvent l'impression quand on a, quand on voit ce qui se passe dans ce monde. Et les méchants qui semblent avoir tout pouvoir. Ceux qui veulent commander le monde et dominer le monde et qui semblent avoir tout pouvoir. Et puis la nuit tombe. La nuit, c'est un moment où on pense qu'il ne se passe rien. Les hommes cessent d'agir. Les hommes vont se coucher, et pourtant l'action continue. Et cette nuit-là, il est dit, il se passa un certain nombre de choses. C'est étonnant, c'était pas Esther qui agissait cette nuit-là. C'était pas Mardoché qui agissait cette nuit-là. C'était aucun des Juifs qui agissait cette nuit-là. Tout le monde est allé se coucher, mais il se passait quelque chose d'étrange. Le roi ne put pas dormir. C'est suffisamment étrange, peut-être que ça lui arrivait pas souvent au roi. D'habitude, il dort, mais cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Le sommeil le fuyait. Et c'est ce qu'on appelle, dans notre langage habituel, c'est une coïncidence. Une coïncidence, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Bon, bien sûr, j'emploie avec un petit peu d'ironie cette expression par hasard, parce que rien ne se passe par hasard, même dans le livre d'Esther où le nom de Dieu n'est pas mentionné, rien ne se passe par hasard. Il y a la providence de Dieu qui contrôle tout, mais ça semble par hasard. Et voilà une coïncidence, une première coïncidence. Le roi ne put pas dormir. Et alors il fait appeler des danseuses. Non. Il fait appeler quelques-unes de son harem, de ses concubines. Non. Il fit appeler le livre des chroniques et il demanda que l'on lût le livre des chroniques. C'est une deuxième coïncidence. C'est une deuxième coïncidence qui suit la première et qui est quand même assez étonnante parce que, bon, quand on regarde un peu les mœurs de ce roi, hein, la façon dont il a choisi la reine, la façon dont il aime les festins du vin, hein, le mot hébreu c'est michtel, c'est le festin du vin. C'était un roi qui aimait manger et boire et le reste. Mais là tout à coup c'est comme s'il est extrêmement soucieux des affaires politiques de son royaume. Alors que jusqu'à présent, on a l'impression que c'est un roi qui se fait manipuler par tout le monde. Il se fait manipuler par Aman, il se fait manipuler par tout le monde. Personne n'a vraiment l'air d'obéir à ce roi. La reine précédente a refusé de paraître en sa présence. Et on a l'impression que tout le monde peut le manipuler et c'est un roi incapable de vraiment prendre des décisions. Mais tout à coup, voilà que pendant une nuit d'insomnie, au lieu de rechercher tous les plaisirs qui sont là à sa disposition, tout à coup, il a un souci pour les affaires politiques et la justice dans son royaume. Il demande que l'on lise le livre des chroniques. C'est la deuxième coïncidence. Et on en arrive à une troisième coïncidence. C'est qu'il est fait état de cette fois-là où il y a bien longtemps, Mardoché a sauvé la vie du roi parce que deux de ses eunuques voulaient le tuer. Et c'est une troisième coïncidence, donc c'est le livre des chroniques, mais on lit au sujet de cette situation-là. Et puis une quatrième coïncidence où le roi pose la question, qu'est-ce qui a été fait à Mardoché en récompense de son acte de loyauté et de bravoure envers l'empereur? Et la réponse, d'après, semble-t-il, le même livre, il ne lui a rien été fait du tout. Et là... Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la probabilité qu'il y ait une coïncidence qui se produise, on peut dire c'est le hasard. Une deuxième, on peut dire c'est encore le hasard, bien que ça devienne plus difficile. Une troisième, on peut dire vraiment, au niveau de la probabilité, c'est extrêmement difficile, mais on pourrait à la limite l'envisager, mais quatre, c'est pas possible. Et là, c'est la nuit, une nuit noire, une nuit aussi de détresse et de désespoir. Les hommes ne peuvent plus agir, mais Dieu, dans sa providence, agit. Il agit de façon parfaite, il agit de façon extraordinaire, de la même façon qu'il a agi dans la création du monde. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il n'y a pas d'évolution. Ce monde n'est pas le fruit de l'évolution, cette création n'est pas non plus, c'est pas Dieu qui a accompagné des processus d'évolution, Dieu a créé toute chose par sa parole puissante, il dit et la chose arrive. Tout écart de cette vérité est un blasphème. C'est la façon dont Dieu a créé le monde, c'est la façon dont Dieu a sauvé le monde par la rédemption en Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, et c'est la façon dont Dieu intervient. Et voilà, le roi, sans l'intervention de personne, est convaincu que cet homme Mardoché doit être honoré, il mérite les plus grands honneurs. Et nous en arrivons à la cinquième coïncidence, où au moment où Aman vient pour demander que Mardoché soit pendu, le roi, avant de lui même accorder la parole, demande à Aman d'honorer, de façon extraordinaire, de façon unique, son ennemi mortel. Selon les caprices même que Aman a formulés. Et là, il est impossible qu'il s'agisse d'une intervention humaine. Et voilà la situation du livre d'Esther. Une situation où voilà les héros du peuple de Dieu. Mardoché est un héros du peuple de Dieu. C'est un homme extraordinaire parce qu'il refuse de se prosterner devant la puissance satanique. Esther est réellement une femme de Dieu extraordinaire. C'est une héroïne dans l'histoire du peuple de Dieu parce qu'elle risque sa vie. Elle est guidée par Dieu. Elle rentre dans la présence de cet empereur qui est l'empereur d'un empire presque tout puissant avec des lois, les lois des Mèdes et des Perses qui sont irrévocables. Et elle renie la sécurité et les plaisirs qui pouvaient être à sa disposition, de la même façon que Moïse, qui était prince d'Égypte, avait fait. Il avait rejeté les trésors de l'Égypte pour participer à l'opprobre du Christ, l'opprobre du peuple de Dieu. Et donc, il y a ces actes de bravoure extraordinaires. L'acte de Mardouché, l'acte d'Esther. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a ces choses qui nous dépassent. Il y a ces situations dans lesquelles on ne peut pas intervenir. Parce que David parle de nos ennemis, il parle de ses ennemis qui étaient plus forts que moi, ils m'avaient surpris le jour de ma détresse, dans le psaume 18. Ce combat qui ne peut pas être mené avec des forces humaines. Ce combat qui ne peut pas être mené avec des moyens humains. Ces choses qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas les changer, on ne pourra jamais les changer. On ne peut pas changer le cœur humain. Vous savez, on ne peut même pas changer notre propre cœur. On peut essayer de s'éduquer les uns les autres, mais on ne peut même pas changer notre propre cœur. Même la prédication la plus éloquente ou les méthodes d'éducation ou de formation, les meilleures. On ne peut pas changer notre propre cœur. On ne peut pas avoir la victoire sur le péché. On ne peut pas avoir la victoire sur la tentation. On ne peut pas avoir la victoire contre la solitude et le désespoir et la méchanceté de nos cœurs et les ruses de l'ennemi. Avec des moyens humains. Et là, voilà la providence de Dieu, voilà l'intervention de Dieu. Et l'intervention de Dieu, elle est parfaite. C'est une succession de ce qu'on appellerait des coïncidences. Mais c'est comme une symphonie, c'est quelque chose d'absolument parfait. Ça s'accomplit dans la perfection. Et le jour, lorsque le soleil se lève sur l'empire perse, le soleil se lève sur un monde différent. Le soleil se lève sur un monde différent. Plus rien ne ressemble à ce qui était la veille. Après une nuit, personne n'est intervenu, en tout cas au niveau humain, personne n'est intervenu, mais c'est fini. Les méchants ne sont plus honorés. Le méchant doit honorer l'homme de Dieu. Le méchant va mourir ce jour-là, ce jour même. Il va s'effondrer et le peuple de Dieu est honoré et il est défendu. Et la nuit qui précède l'aube du jour de la délivrance pour Esther, pour Mardoché et pour le peuple de Dieu, c'est une image prophétique de l'aube de la rédemption, de l'aube du jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra et il s'assoira de façon visible sur le trône et il régnera sur les nations, il régnera sur le monde et où les promesses de Dieu s'accompliront. Les promesses de Dieu s'accompliront par suite aux efforts des hommes, même des hommes de Dieu, même des hommes qui ont les meilleures intentions. L'évangile, ce n'est pas un évangile humaniste. Ce ne sont pas nos efforts qui vont transformer le monde. Nos efforts ne transformeront jamais le monde. Le Seigneur Jésus-Christ transformera le monde par l'éclat de sa présence, de sa puissance, de sa sainteté, de sa gloire. Et voilà la mission à court terme. Qui voudrait avoir des impacts à long terme. On voudrait que la mission à court terme ait des impacts pour l'éternité. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne connaissons pas ni la portée, ni les enjeux, ni la profondeur des situations dans lesquelles nous sommes placés. Nous ne savons pas quoi faire. Nous avons devant nous des œuvres préparées d'avance, mais nous sommes dans toute notre faiblesse, dans toute notre solitude. Nous faisons face à l'opposition, nous faisons face à l'incompréhension, nous faisons face au témoignage de notre faiblesse, du péché dans notre propre vie, de nos tentations, de nos souffrances, de nos découragements. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ sans le voir. Ce qui est extrêmement difficile, c'est un acte de foi. Alors, ceux que je vois qui disent « j'aime le Seigneur Jésus, c'est tout pour moi, c'est toute ma vie », moi, j'écoute et parfois J'ai l'impression qu'on le dit beaucoup, mais je suis un petit peu sceptique. Mais est-ce qu'on aime vraiment le Seigneur Jésus? Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable d'aimer le Seigneur Jésus sans le voir, alors qu'on est tellement sensuel, c'est-à-dire guidé par nos sens? Qu'est-ce qui nous touche, nous, les hommes qui sommes ici bas en ce monde? Ce qui nous touche, c'est ce qu'on voit. Ce qui nous touche, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qui est là devant nous. Et aimer le Seigneur Jésus sans le voir, dit Pierre, et se réjouir d'une joie ineffable et glorieuse, c'est un acte de foi. Vous ressentez-vous tous les jours une joie ineffable et glorieuse du fait que vous aimez le Seigneur Jésus sans le voir? Si vraiment quelqu'un peut se lever ici et oui, je vis vraiment tous les jours quotidiennement dans cette joie ineffable et glorieuse parce que j'aime Jésus, le Seigneur Jésus-Christ sans le voir, vraiment je serais admiratif. Je vous préviens, c'est pas mon cas. Je vis ici bas, je vis sur la terre. Et qu'est-ce que je vois tous les jours? Je vois en moi la fatigue, je vois en moi le péché, je vois la souffrance de ceux qui sont autour de moi. Je vois un monde qui est plein d'injustice partout. On voit le crépuscule de cette civilisation qui est complètement insensée. On voit l'injustice, la méchanceté, le péché autour de nous. On voit la faiblesse du peuple de Dieu, la faiblesse de l'Église. Combien on est petit, combien on est divisé. On essaie de comprendre la volonté de Dieu. On a nos idées sur la volonté de Dieu, mais trois fois sur quatre, on n'a rien compris. Oui, c'est ça. C'est ça dans mon cas, en tout cas. On progresse, on fait trois pas en avant et puis on fait deux pas en arrière. Et parfois, on ne sait pas où on va et on ne sait pas où on en est. Un jour, un de mes ennemis m'a provoqué en me disant, t'essaies de guider les autres, Joël, mais toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Bon, c'était vraiment méchant. En plus, il me l'avait écrit. T'essaies de guider les autres, toi-même, mais tu ne sais pas où tu vas. On essaie de guider les autres, on ne sait pas où on va. Et j'étais désespéré. Je me disais, et si c'est vrai? J'étais à l'époque à la tête d'une mission qui, à l'époque, elle était assez prospère en Bulgarie. On avait un grand bâtiment, il y avait un centre médical, il y avait une école biblique, il y avait des stations. Mais il y avait déjà en ferment, apparemment, beaucoup, beaucoup de choses qui déplaisaient à Dieu et qui n'allaient pas. Et alors j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est terrible, c'est un cauchemar. Je suis là et on me demande de guider les autres et mes ennemis me disent, mais tu sais pas où tu vas. Et le Seigneur qui me donnait la conviction, oui, c'est vrai, oui, tu ne sais pas où tu vas, mais moi, je sais où je vais. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait face à ses ennemis, aux pharisiens. Vous ne savez pas d'où je viens, vous ne savez pas où je vais, mais moi, je sais que je viens de la gloire du Père, disait le Seigneur Jésus. Et je sais que c'est là que je vais, auprès de la gloire du Père. Oui, souvent, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, on n'a pas de plan à long terme, on n'a pas de stratégie à long terme. Pourquoi? Parce que les difficultés et l'opposition et notre propre faiblesse sont tellement grands qu'on arrive à peine à démêler les nœuds qui sont juste devant nous. Mais le Seigneur sait, il sait où il va. Et il y a l'accomplissement de sa promesse, et l'accomplissement de sa promesse, c'est la glorification du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Dieu Tout-Puissant se fait un peuple qui lui appartiennent, un peuple qui soit le sien. Cette volonté de Dieu qui est parfaite, ce plan de Dieu qui est parfait, le plan de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Le plan de Dieu, ce ne sont pas nos projets, ce ne sont pas nos intentions, ce ne sont pas nos stratégies. Le plan de Dieu ne s'obtient pas par l'exercice d'un certain nombre de méthodes qu'on aurait quantifiées, qu'on aurait répertoriées, comme en économie. Non, le plan de Dieu s'accomplit parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est présent dans son Église, qui est présent au milieu de nous, qui agit au travers de sa parole, cette parole qui crée la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le Seigneur est à l'œuvre. Et le Seigneur se plaît à agir lorsque tous les moyens humains font défaut, tous les moyens humains font faillite. Et ça, c'est dans nos cœurs, ça, c'est dans nos vies, c'est dans les situations, où, même dans notre vie personnelle. On se rend compte qu'on est empêtré, on ne s'en sort pas. On n'arrive pas à être délivré de nos peurs, on n'arrive pas à être délivré
de nos angoisses, on n'arrive pas à être délivré de notre solitude, on n'arrive pas à être délivré de nos tentations, on n'arrive pas à être délivré de nos mauvaises habitudes, on n'arrive pas à être délivré de la rancœur, on n'arrive pas à être délivré de la colère, on n'arrive pas à être délivré de toutes ces choses-là contre lesquelles on livre un combat. On livre un combat et vous le savez, on livre un combat parce qu'on se dit « je suis un bon chrétien, je dois livrer un combat » et puis à un moment on arrête de combattre. Et puis, il y a peut-être quelqu'un qui nous pousse du coude. Ça y est, c'est fini, tu n'es plus un bon chrétien parce que tu as arrêté de combattre. Et pourtant, si on combattait avec des forces humaines, avec la force de notre volonté propre, pour vaincre le péché dans nos vies ou pour vaincre le désespoir dans notre vie, peut-être qu'il faut arrêter de combattre. Parce qu'il y a un moment où on arrête de combattre, mais quand même, si on est vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu vas crier à Dieu et tu vas dire à Dieu, voilà, je ne peux plus combattre. Je ne peux plus combattre, je n'arrive pas à obtenir la victoire. J'ai utilisé toutes les méthodes possibles pour obtenir la victoire dans ma vie contre peu importe quoi. Et voilà, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur est proche de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il ne veut pas voir défaillir les âmes qu'il a créées. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y en a qui disent, dans l'Ancien Testament, il n'y a que la loi et dans le Nouveau Testament, il n'y a que la grâce. Regardez dans l'Ancien Testament ce qui est écrit. Voilà, le moment où David y disait si tu voulais Seigneur des sacrifices, je t'en aurais offert autant que tu veux. Mais ce que tu veux Seigneur, c'est un cœur brisé et contrit. Et voilà, cette histoire d'Esther où voilà, il y avait une telle opposition, personne ne pouvait remporter la victoire, personne ne pouvait faire face aux lois des Mèdes et des Perses qui étaient des lois irrévocables et personne ne pouvait faire face aux puissances diaboliques de l'ennemi du peuple de Dieu qui avait décidé que le peuple de Dieu va être détruit. Mais Dieu était tout puissant. Dieu était tout puissant. Il avait ses serviteurs, des serviteurs humbles, des serviteurs obéissants, qui progressaient lentement sans savoir quoi faire, en étant guidés et sans savoir l'accomplissement. L'accomplissement du plan de Dieu à l'avance. Je sais qu'Esther, à un moment, elle a eu la conviction qu'il fallait attendre 24 heures. Mais ça m'étonnerait que Dieu lui ait révélé tout ce qu'elle allait faire pendant cette nuit-là. Le Seigneur lui dit d'attendre. Et elle a obéi, elle a attendu, mais elle ne savait pas pourquoi. Et ça, c'est toute notre vie. Ceux qui voudraient nous dire, moi, je comprends comment Dieu agit, je sais qu'il faut faire ça parce que Dieu va faire ça et va faire ça. Et moi, je croise les bras et ça me donne envie de faire sourire comme ça, vie. Vous savez, c'est dangereux quand on devient des grands spécialistes de Dieu, quoi. Dieu, il ne nous appelle pas à devenir des grands spécialistes de Dieu. Parce que Dieu, il nous dépassera toujours. Il nous a toujours dépassés et plus on connaîtra quelque chose sur lui ou plus on croira connaître quelque chose sur lui, plus il sera au-delà de nous. Et pourtant, Dieu est d'une telle stabilité. Et pourtant, en ce qui concerne son amour, en ce qui concerne sa fidélité, en ce qui concerne sa toute-puissance, il n'y a aucun doute. Mais la façon dont il agit nous dépasse. Et à un moment, il dit à Esther d'attendre. Pas aujourd'hui. Le roi te pose la question, non, tu lui réponds pas. Pas répondre au roi, mais on répond. Comment on se donne pas au roi, on répond pas au roi. Non, tu réponds pas au roi. Demain, tu lui répondras au roi. Et parce qu'il fallait que Dieu intervienne. Et ça c'est l'histoire de la victoire du Seigneur. C'est l'histoire de la victoire du peuple de Dieu. C'est aussi l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de la mienne. Nous avançons dans l'obéissance. Et notre obéissance, c'est seulement une semence. C'est Dieu qui fait lever tout ça. C'est Dieu qui agit. Il intervient. Et il intervient pendant la nuit. Il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament où il est parlé de Dieu qui donne des chants de louange pendant la nuit. De Dieu qui agit pendant la nuit. Et c'est cette histoire merveilleuse, j'étais vraiment touché, et que le Seigneur nous encourage à lui être fidèle et à agir. Il y a des moments que Jésus décrit où c'est vrai, ça ressemble un peu à la nuit où personne ne peut travailler. Mais même lorsque c'est la nuit où on ne peut pas travailler, le Seigneur, lui, même les ténèbres sont lumière pour lui, il agit toujours. Il agit dans notre vie et est situé aux prises avec une situation qui semble sans issue ou qui est vraiment sans issue, une situation désespérée, une situation où nos ennemis effectivement sont plus forts que nous, sachant que notre pire ennemi c'est souvent nous-mêmes, notre propre nature. Le Seigneur agit. Le Seigneur n'abandonnera jamais ses enfants. Le Seigneur accomplira sa volonté. Il accomplira son dessein. Il accomplira ses promesses de façon parfaite, quoi qu'il arrive, que le Seigneur nous bénisse.